Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute de l'émission qui parle évidemment de Ballon Rond, Radio Foot International sur la radio mondiale. Nous commencerons aujourd'hui avec Rigobert Song. Rigobert Song, sélectionneur, cette fois-ci des Fauves du Bazoubangui. Mais l'arrivée de ce lion indomptable à la tête de l'équipe nationale de Centrafrique fait déjà des vagues, car la fédération centrafricaine a été prise de court par les autorités du pays. Elle avait, elle, misé sur une équipe plutôt locale pour succéder à Raoul Savoie. Éric Schell, premier entretien avec le sélectionneur des Super Eagles. Arrivé au Nigeria pour officialiser sa nomination, l'ancien dirigeant du Mali explique comment il compte relancer une sélection mal embarquée pour rallier la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Au micro de notre correspondant Bright Abiola, nous l'entendrons donc évoquer son premier défi. John Textor à l'attaque. Hier soir, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais a critiqué sans embâge et parfois crûment établi un constat accablant de la Ligue 1. Critiqué aussi Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, et l'emprise du Qatar sur le football français, en vantant son modèle économique à lui, celui qu'il applique, celui qu'il respecte. Pas de cheveux sur la langue pour l'Américain. Et nous verrons dans quelle mesure ces propos ont aussi une certaine vérité. Et invité dans ce studio aujourd'hui, il y a Chérif Guémour. Bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre ami fidèle au poste, camarade de SoFoot, bien sûr, à ses côtés. Franck Simon, bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Toujours intéressé par le football africain ?
Oui, mais pas que.
Hein, pas que, bah oui. On vous connaît, il y a des Toffees et puis il y a plein d'autres choses dans le monde du football.
Parlons pas des choses qui
dans
fâchent.
Votre galaxie footballistique. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour à tous.
Bon, toujours fidèle au rendez-vous.
Toujours intéressé par le football et le football s'intéresse à moi, donc à partir de là, bon, aucune raison de divorcer.
Tout va bien alors. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission avec Pierre Guérin et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. C'est le champion du jour, le marin, qui vient de pulvériser le record du Tour du Monde à la voile en solitaire et sans escale. Mieux que le Tour du Monde en 80 jours de ouais. Jules Verne, bien sûr. Le héros de ce 14 janvier 2025 s'appelle Charlie Dalin, un Normand de 40 ans, natif du Havre, qui a eu droit à un message, là est le lien avec notre émission, du club de sa ville natale, le HAC, le Havre Athletic Club, qui est le premier club de football
club
fondé.
Doyen.
Exactement, fondé en France, à jamais le premier. Hein,
1872, je crois.
Oui.
Ouais, ou 74.
Et d'ailleurs, Havre Athletic s'écrit en anglais parce que, évidemment, c'est par ici que
les couleurs d'Oxford et de Cambridge.
Ouais, voilà. C'est par ici que rentrait le football. Et sur le compte Twitter de ce club, il est écrit 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes. Le vainqueur du Vendée Globe est havrais. Félicitations à Charlie Dalin. On a hâte de te voir avec ton trophée au stade Océane, là où joue cette équipe en Ligue 1. Pas très bien en ce moment d'ailleurs, pas très bien classée, mais au moins, ça leur mettra du baume au cœur. En tout cas, ce matin, pour ceux qui se sont réveillés un peu tôt, eh ben, il y avait des images sublimes de la fin de course, de ce voilier escorté avec d'un côté, alors vers l'ouest, on voyait encore la pleine lune, puisque le soleil n'était pas encore levé, les flots éclairés par cette pleine lune. Et de l'autre côté, il y avait le port des Sables d'Olonne en pointe de mire et avec des lueurs orangées, celles de l'aube. Est-ce que vous avez pris plaisir à regarder des images de l'arrivée de cette course absolument incroyable? Alors, ils partent 3 mois, hein, 64 jours, enfin c'est 2 mois et quelques maintenant, mais seul à bord d'un bateau bien petit sur les océans du monde.
Oui, enfin, alors je l'ai pas regardé en direct pour être honnête avec vous, plutôt en différé parce que c'est pas mes heures. Voilà, le matin, moi je sais pas trop ce que c'est, mais tout le long de la course et de l'aventure, notamment chez le diffuseur, la chaîne L'Équipe, on a eu des images et C'est plus vraiment, c'est en solitaire sans être en solitaire maintenant, parce que il y a des images.
C'est plus loin du monde.
Voilà, y a des images où on les voit en train de vivre l'aventure. Notamment, et on les voit appréhender les étapes, et même dans leur quotidien, on les voit s'exprimer. Donc ce sentiment de solitude, il existe, mais il est beaucoup moins important que par le passé, grâce ou à cause, comme vous voulez.
Ils sont isolés, mais c'est plus la solitude.
Ouais, voilà, c'est plus la solitude. Maintenant, c'est toujours très impressionnant. Et puis surtout, les images qui font plaisir, c'est plutôt les gens qui sont là à l'arrivée, à les attendre, à attendre d'Alain qui est arrivé le premier, puisque les autres vont arriver. Oui. Derrière, au goutte
oui,
à goutte,
mais ça va durer.
Mais de voir quand même cet élan de sympathie du public à l'arrivée, c'est ça aussi qui m'a plu. Il y a même eu un feu d'artifice bleu, blanc, rouge. Donc il y avait toute une animation pour féliciter donc, ouais. D'Alain.
À l'entrée du chenal des Sables d'Olonne, c'est une région que vous connaissez bien, vous, Franck.
Moi, c'est plus les Charentes-Maritimes.
Les Charentes, ouais. Oui.
Non, j'avoue que c'est toute la dimension que vous venez de décrire m'a échappé. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est. L'exploit en solitaire, la solitude.
C'est l'envers du foot.
Ouais, franchement. Et même si aujourd'hui le matériel, c'est quand même, et Dieu merci pour eux, amélioré, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de victimes dans toutes ces traversées par le passé. Ça reste une performance humaine exceptionnelle. Mm-hmm. Parce que le moteur reste un moteur humain. Il n'y a pas beaucoup de sommeil.
C'est
le vent. Franchement, bravo à tous ceux qui sont les rescapés, parce qu'il y a de la casse sur ces courses-là.
Ouais. Ouais. Mais il y a eu 7 abandons, je crois, seulement. Ouais.
Franchement,
sur cette course.
De boucler, c'est une victoire. Ouais. Boucler des traversées comme celle-ci.
Une victoire de Charles Dalin, on se souvient, il y a 4 ans, le pauvre, il était arrivé premier, mais comme quelqu'un qui était deuxième avait réussi à sauver, se dérouter pour sauver un marin en perdition. Il avait été reclassé, du coup, lui, s'était retrouvé deuxième.
Il était passé devant. Ouais.
Et cette fois, une course parfaite. Et c'est vrai qu'on se dit, par rapport à une équipe où on est quand même, où on travaille en équipe, là, ils ont l'équipe à terre, mais eux, ils sont tout seuls à barrer le bateau.
Oui, oui, c'est une aventure humaine absolument sensationnelle. Parce que je m'étais intéressé il n'y a pas longtemps aux exploits d'Éric Tabarly. Je m'étais rendu compte de la difficulté, d'autant plus que lui, avant, c'était des bateaux qui n'étaient pas du tout munis de la même technologie. Puis ça reste un grand succès français, parce que j'ai appris pendant très longtemps, la navigation, c'était vraiment la fierté des Anglais. Et plus le temps passe, plus la France est en train de les dépouiller de tous leurs titres, de tous les records. C'est assez fabuleux. Il y a une bonne tradition, une bonne culture de la voile sportive en France.
Et d'ailleurs, on peut saluer tous les passionnés de cette course, en mer, à terre aussi, comme à Aix-en-Provence, mais aussi à tous les copains, nos copains d'ailleurs, qui sont encore d'ailleurs en course virtuelle, la si populaire Virtual Regatta, où l'on peut faire le tour du monde grâce à son ordinateur. Mais il faut savoir le faire, il faut parfois se lever un peu tôt aussi en vertu des vents. Il y a près d'un million de participants actuellement qui font cette course. Et je peux vous dire qu'ils sont très nombreux à RFI à suivre ce
noms,
parcours.
Annie, des noms.
Des noms, David Finzel, notamment. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi Frédéric Suteau et d'autres. Thomas de Saint-Léger, qui lui est sur place. Alors peut-être qu'il va demander quelques tuyaux pour bien finir la course. Bon, en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, on revient au ballon. Photo pour conclure un deal. Il pose tout sourire, le président Touadéra et Rigaud Bersong, dans le bureau du palais présidentiel pour annoncer le recrutement à la tête des fauves du Bazoubangui, de ce lion indomptable, désormais donc sélectionneur de l'équipe de Centrafrique. L'annonce a été faite tard dans la soirée, hier, et elle a pris par surprise la Fédération Centrafricaine de Football. Le communiqué d'ailleurs publié tout à l'heure est clair en ce sens. On y parle d'une fédération qui a appris avec consternation et surprise par le biais des réseaux sociaux, la nomination du sélectionneur. Il y a eu ensuite une réunion du comité exécutif extraordinaire qui tient à informer l'opinion nationale et internationale que la fédération n'a été ni associée ni consultée pour cette prise de décision, car la fédération centrafricaine avait décidé de nationaliser, entre guillemets, c'est-à-dire de confier à une équipe plutôt locale, centrafricaine, les commandes de la sélection A. Est-ce que c'est un peu rocambolesque cette nomination? Et on va se dire, Rigobert Song, il a un peu l'habitude des tiraillements entre fédération et politique.
C'est pas rocambolesque, ça nous renvoie à l'épisode camerounais de l'an dernier. Donc, on est dans le même, je trouve qu'on est dans le même cas de figure avec l'État centrafricain qui prend cette décision, annoncée par un directeur de cabinet. Et au moment où le communiqué a été pondu par la Fédération centrafricaine de football, il n'avait pas été nommé. Il a rencontré effectivement le chef d'État. Il n'avait pas encore signé Rigobert Song Bahanag. Donc, on peut comprendre leur réaction parce que pour eux, ils considèrent qu'ils sont marginalisés. Ça leur échappe alors que normalement, c'est de leur
ressort.
De leur ressort. Oui. Alors, on a vu aussi le communiqué de l'État centrafricain. On associe sur le banc celui qui était nommé, hein, c'est-à-dire notre ami Eloge Nzaï Amissi, qui est l'ancien capitaine, qui était un sacré joueur, et Sébastien Gâteau, qui est l'homme qui a qualifié l'équipe de Centrafrique pour le CHAN. Donc, heureusement, il y a des nationaux qui sont là, mais Eloge Nzaï Amissi avait été nommé pour ces tâches-là. Et il y avait quelqu'un aussi sur le banc du CHAN. Bon, c'est ainsi. Je pense que c'est le début d'un feuilleton entre la fédération et le gouvernement centrafricain.
Souvent, on dit que dans les nations, surtout passionnées de football, et c'est le cas en République centrafricaine, qu'il y a autant d'habitants qu'il y a de sélectionneurs. Hein, donc, 6 millions d'habitants, 6 millions de sélectionneurs. Et donc, le président et le ministre des Sports, finalement, se sont érigés en spécialistes pour nommer un sélectionneur. C'est vrai que c'est eux qui payent.
Bah voilà, vous avez tout dit. C'est le mot le plus important. C'est le payeur qui décide. Après, il y a la forme et il y a le fond. Sur le fond, je n'ai pas dit qu'on peut comprendre, mais ça fonctionne beaucoup comme ça. Il y a eu d'autres exemples récents. Sur la forme, ils auraient pu associer la fédération d'une manière ou d'une autre, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui est navrant dans cette histoire, on verra si l'attelage va fonctionner, s'il ne va pas y avoir de dysfonctionnement. Moi, ce que j'ai noté dans ce que vous avez dit, c'est qu'ils ont appris la nouvelle par les réseaux sociaux. Je veux dire, il y a quand même un minimum.
Ouais.
Bon, que vous fassiez comprendre officieusement que c'est vous qui allez décider pour X raisons, parce que vous estimez que Rigobert Song, c'est une image, c'est une légende, c'est un coach qui a été en Coupe du Monde, qui a battu le Brésil, qui s'est qualifié. Vous pouvez trouver des arguments, hein, même si vous
Bien
êtes technocrate. Mais le faire de cette manière-là, ce n'est pas acceptable et ça ne crée pas les conditions, on va dire, d'une bienveillance.
Ni d'un dialogue.
Ni d'un dialogue. Et surtout, il y a des gens qui, eux pensaient peut-être que c'était leur tour, comme Eloge Nyamissi, par exemple, Nzaï Amissi. Bah, aujourd'hui, on va demander de travailler avec quelqu'un qui tombe comme ça, qui est parachuté subitement. C'est comme en politique.
Mais il était en poste. Le pire, c'est qu'Eloge avait été nommé à la suite du départ de Raoul.
Il comprendra que ce n'est pas la Fédé qui lui a fait le coup. Hein,
voilà.
Tu es obligé de te plier. Quoi.
Ce qui est étrange, Franck, c'est qu'en plus, cette fédération ne l'avait pas démérité parce que justement, ils viennent d'arracher cette qualification au CHAN qui a été fêtée pratiquement comme si c'était une qualification à la CAN ou en Coupe du Monde pour la Centrafrique.
Et heureusement, parce que c'est formidable. Il y a déjà quelques années, Sébastien Gâteau, et c'est lui qui les avait qualifiés pour vous vous souvenez, en Coupe d'Afrique des Nations, il y avait un joli parcours des
U20. Le gâteau va falloir le partager sur le banc.
Ouais. Mais il a qualifié l'équipe pour le CHAN, ce qui est évidemment un événement considérable quand un pays comme la Centrafrique de disputer des compétitions CAF une fois de plus. Eloge était là, Gâteau avait qualifié l'équipe. Bon, et là on leur met quelqu'un devant qui est une personnalité, certes. Après, se pose la question des pépettes, de l'argent.
Ouais,
et en l'occurrence,
bien.
On a bien compris que l'État va mettre à disposition un budget. Ça devrait quelque part, ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais quand vous êtes voisin, j'ai envie de dire, Annie, quand vous êtes voisin de palier, ministre des Sports, président de la Fédération centrafricaine,
révèle qu'il n'y a pas un bon voisinage.
Oui,
donc.
Non, mais on peut se passer un petit coup de fil. On peut se dire, tiens, viens me voir, écoute, voilà.
Un peu de respect.
Oui,
ouais.
Parce que ça reste... ils vont être associés d'une
dans
façon
même camp,
ou d'une autre.
De toute façon,
exactement.
In fine,
pour le sport centrafricain et pour le football
bien sûr.
Centrafricain.
Théoriquement, c'est le but. Alors, on ne sait pas encore combien de temps est le contrat, mais par contre, Chérif, ce qu'on peut se dire, c'est que la mission qu'on semble lui donner est déjà compliquée parce que donc il n'y a pas de CAN. Hein, la Centrafrique ne s'est pas qualifiée. Il y a donc ce CHAN à venir et sans doute, s'y sera-t-il associé, va-t-il le superviser. Mais on vient de l'apprendre et on y reviendra demain.
Quelques minutes.
Ce CHAN vient d'être reporté, on s'en doutait, parce qu'il y avait des rumeurs. Il est donc reporté
en août.
Alors, c'est le CHAN 2024 qui aura lieu en 2025 et qui ne cesse d'être reporté.
Avec le fameux glissement cher à Padjou.
Mais je peux poser une question sur les conditions climatiques. Au mois d'août, quelle température là-bas?
Où ça?
Au Kenya, Ouganda, Tanzanie. Parce que ça m'interpellait, parce que...
Je ne connais pas, ça va être...
C'est une région que j'ai pas mal... comme tu le sais, c'est une région dans laquelle j'ai pas mal louvoyé, familialement à l'époque, et puis pour d'autres compétitions. Et j'y voyais... Enfin, il fait pas des températures...
D'accord.
Climatiquement parlant, c'est pas...
C'est praticable.
C'est plus que praticable.
Le défi quand même pour ces fauves qui font rêver toute une nation, certes, mais alors là, ça serait pour participer à la prochaine Coupe du Monde Shérif. Il y a 9 places cette fois-ci au lieu de 5, donc théoriquement il y a des opportunités, mais il y a beaucoup de gros maintenant sur ce continent qui ont un peu des places pratiquement qui leur sont allouées. Et là, ils sont quand même mal partis dans leur groupe, ces fauves. Est-ce qu'en plus, la mission est pas trop compliqué?
C'est peut-être le cadeau empoisonné. On va chercher justement un...
C'est pas un gâteau empoisonné, c'est un cadeau empoisonné.
C'est une très bonne chanson, cadeau empoisonné. Très bonne chanson africaine.
C'est peut-être un cadeau empoisonné qu'on a fait à Rigobert Song, justement, dans une mission quasi impossible. Elle n'est pas... Il y a un gros déplacement périlleux à Madagascar, hein, si mes souvenirs sont bons.
Oui, exactement.
C'est pratiquement toujours son sélectionneur. Ouais.
Pratiquement la dernière chance pour le Centrafrique. Donc, on se prémunit aussi peut-être.
De leur groupe.
Non, mais attendez, la qualification.
Non,
c'est de la science-fiction.
Ils ont perdu contre les Comores.
Je continue. Comment dire, c'est très certainement un cadeau empoisonné. Mais de toute façon. En général, ce genre de pratique, ça remonte aux pratiques qu'on a bien connues dans le passé du football africain. On revient avec le primat du politique sur le sportif. C'est un peu désolant, mais quelque part, on s'assure une porte de sortie, c'est-à-dire que si l'équipe ne se qualifie pas, mine de rien, ce sera un étranger qui aura échoué. Peut-être qu'on fera revenir justement ceux qu'on avait nommés au départ. La deuxième chose, c'est que l'affaire n'est pas finie. Et je rappelle qu'en général, la FIFA... n'aime pas les interventions, les ingérences.
La FIFA a besoin de l'Afrique.
En Afrique, elle a l'air d'être très...
C'est une grande hypocrisie, cette histoire. De toute façon, rien à attendre de ce côté-là.
C'est le dernier recours que peut s'octroyer
la
FIFA, qui voit toujours d'un très mauvais oeil.
La fédération va être obligée de se ranger derrière la raison d'État, c'est tout.
La raison d'argent. Franck,
après, bon,
pour terminer,
il y a quand même des joueurs, que ça soit le capitaine, Geoffrey
qu'on connaît bien.
Kondobia, et puis on a Koyalipou qui a émergé il n'y a pas si longtemps.
Mafuta qui est très bon,
qui lui a fait des miracles.
Alors, mais il y a une équipe qui avait été suscitée, qui avait été créée, rassemblée. Il y avait les petits jeunes, les locaux, avec Sébastien Gâteau, les U20 qui sont maintenant en âge de jouer pour Léa.
D'ailleurs, ils n'étaient pas trop loin d'une qualif une fois à la CAN.
Ça fait une dizaine d'années.
Mais ils ne jouent pas dans leur pays en plus.
À chaque fois, ils échouent
au Cameroun.
Il y a du talent pour Rigobert. Voilà, mais bon, il ne faut pas rêver sur une Coupe du Monde.
Enfin, Rigobert Song, il va enfin être tranquille pour faire un 11. C'est quand même une bonne nouvelle pour lui. Il va avoir peut-être un peu plus de latitude, qu'on vienne pas l'embêter la veille des matchs dans sa chambre d'hôtel, par exemple.
Je vois pas ce que vous voulez dire.
Non, j'ai rien, du tout, moi.
Voilà pour des fauves, donc affamés et ambitieux, mais nous avons aussi des Super Eagles aux ambitions nouvelles.
A very good evening to you. Thanks for joining us on the Tuesday edition. Super Eagles of Nigeria have a new coach. He's Eric Challey.
Le Nigeria a enfin un nouveau sélectionneur. Après plusieurs mois de flottement et d'intérim, Eric Schell a été nommé à la tête des Super Eagles. De prendre en main une équipe triple championne d'Afrique.
Eric Schell en fonction donc au Nigeria. C'était il y a 8 jours que le nouveau sélectionneur est arrivé ou a été désigné.
Il
est arrivé au cours du week-end. Samedi ou dimanche.
Non, dimanche, parce que samedi, il était sur le banc du Mouloudia d'Oran.
Exactement. Alors, samedi, il a dirigé son dernier match avec le MC d'Oran face à l'USM Sétif. Dernière victoire.
En coupe, ouais.
C'était 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Dernière victoire, 1-0. Ensuite, il s'est transposé, il a évidemment pris un avion pour se rendre à Abuja, au Nigeria. Et en territoire nigérian, Eric Schell a accordé une interview à notre correspondant Bright Abiola. Il lui a confié ses premières sensations, mais surtout son projet pour la sélection des Super Eagles.
Je suis très content et très fier d'être ici. C'est un honneur pour moi d'être devenu sélectionneur de cette grande équipe nationale. Aujourd'hui, on passe un petit peu tout par tous les états. Hein. Un petit peu de... C'est pas le mot de peur, mais bon, j'arrive dans un environnement que je connais pas. Ouais, c'est un pays anglophone, mais je suis très très fier aujourd'hui d'être là. Et j'ai été très bien accueilli, donc je remercie vraiment tout le peuple nigérien, la fédération, la commission des sports et bien sûr le gouvernement. Et j'ai qu'une envie, c'est de me mettre vite au travail. J'ai hâte que ça commence.
En quoi avoir les épaules pour quand même et les capacités pour diriger et conduire le Nigeria vers le sommet?
Déjà, il y a beaucoup de monde qui disent que j'ai pas d'expérience, mais finalement de l'expérience j'en ai. J'entraîne depuis 2014. J'ai entraîné une équipe. On va dire d'Afrique de l'Ouest il n'y a pas longtemps. J'ai entraîné une équipe en Algérie. Donc le football africain, je commence à bien le connaître. Moi, je me sens prêt. Je me sens prêt pour diriger cette grande équipe. C'est vraiment une grande équipe. Il y a des grands joueurs. Donc non, moi, je m'inscris dans le processus de progression. Ils vont m'aider à progresser. Je vais les aider aussi à progresser. Parce que j'ai une vision du football qui, je pense, va très, très bien coller avec cette équipe. Donc non, je me sens prêt. Et encore une fois, hâte de travailler.
Super Eagles. Waiting they happen, waiting they share, we won't know. Shane a winch, I've been landing, no matter their plan, no, we go still they fly.
Il y a plus de pression qu'avec le Mali. Comment allez-vous gérer cela?
On fait du football. La vérité, c'est que c'est normal qu'il y ait une pression, c'est normal qu'il y ait des critiques. Partout où j'irai, je pourrai faire n'importe club, il y aura des gens qui seront fans de moi, et puis il y en a d'autres qui me détesteront. Maintenant, moi aujourd'hui... je vais travailler, j'ai mon projet de jeu en tête, j'ai des certitudes, je vais le mettre rapidement en place. Maintenant, mes résultats et les résultats de l'équipe parleront pour moi. Donc aujourd'hui, la vérité, on peut dire ce qu'on veut, mais à l'heure où on parle, le sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria, des Super Eagles, il s'appelle Eric Schell.
Osimhen, égalisation ! L'égalisation de Victor Osimhen ! Il attendait son premier but à la CAN, ça y est, c'est fait !
Vous allez gérer des stars comme Lookman et Osimhen, Chukwueze et autres.
C'est des grands joueurs, c'est des grands hommes. Déjà, moi, je vais venir avec beaucoup d'humilité, mais encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de certitudes. C'est un dialogue qu'il va falloir instaurer entre nous. Ce n'est pas l'intérêt d'Eric Schell ou des joueurs qui priment aujourd'hui. C'est l'intérêt de la nation, c'est l'intérêt des Super Eagles. Et on doit tous tirer et œuvrer dans le même sens pour que cette équipe ait des résultats. Donc moi, pour moi, il n'y aura aucun problème... entre les joueurs et moi. Tout ce que je demande, c'est qu'on soit très bon dans le travail chaque jour. Et quand on est très bon dans le travail chaque jour et à l'entraînement, on a des résultats. Après, bien sûr, dans un groupe, il y a un mot qui est très important, c'est le respect. Le respect des joueurs, le respect du staff, le respect de la personne. Et il faut instaurer des règles pour que tout le groupe tire dans le même sens. Il faut que chacun respecte ses règles. Et moi, j'ai aucun doute que ces joueurs-là... grands joueurs et grands hommes qui sont, ils vont respecter ces règles, il n'y a aucun problème.
Est-ce que vous avez pu identifier ce qui n'a pas marché lors des premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde avec les Super Eagles?
La vérité, c'est que bien sûr que j'ai analysé et je vais continuer à analyser. Mais ce qui est fait est fait. Moi, j'arrive pour imposer un état d'esprit, pour imposer un projet de jeu. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est ce n'est ni plus ni moins que demain. Voir comment mes joueurs vont s'adapter à ce projet de jeu. Je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de temps, mais... j'ai une petite expérience là-dessus. Quand je suis arrivé en équipe nationale, il a fallu vite que je propose quelque chose. Et finalement, j'ai eu des réponses positives. Quand je suis arrivé en club en Algérie, pareil, je suis arrivé deux jours, je jouais un match contre le MCA et il a fallu que je propose vite un projet de jeu que les joueurs s'adaptent. Et finalement, j'ai ces certitudes pour vite faire ancrer mon projet de jeu. Donc je suis confiant et très motivé encore une fois.
Quel style de jeu vous allez donner au Nigeria?
Le style de jeu, c'est le football que j'aime. Voilà, en tant que joueur, moi j'étais un joueur agressif. J'étais pas Messi ou un grand technicien comme il y a dans cette équipe, mais j'étais un joueur agressif, très physique. J'aime quand mon équipe joue, j'aime quand mon équipe a la possession du ballon, mais j'aime surtout quand elle n'a pas la balle, qu'elle mette beaucoup d'intensité et qu'elle mette beaucoup d'agressivité sur le porteur de balle. Et derrière, après, on joue et les joueurs sont pratiquement libres de jouer comme ils veulent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, mon équipe, tous les joueurs de mon équipe parlent le même football. Voilà, donc J'aimerais que mon équipe, elle me ressemble. Et puis, non, encore une fois, on va proposer ce projet de jeu et j'ai hâte que ça commence.
Nabil Djellit, alors Éric Schell, sa nomination avait un peu étonné. Ses propos et ses certitudes sont-elles convaincantes? Vous avez dû l'observer, lui, qui arrive d'Oran.
Oui, ouais, bah écoutez, c'est vrai que
en Algérie, hein, championnat
alors,
algérien.
Je souhaite déjà bon courage parce que le Nigeria, ce n'est pas qu'une équipe de football, c'est aussi un environnement. Et on sait très bien qu'en Afrique, dompter et maîtriser l'environnement, c'est une des clés du succès. C'est un pays avec une ferveur, une passion incroyable. Vous parliez tout à l'heure de, en Centrafrique de millions de sélectionneurs. Bah là, il y en a 200 millions hein, des sélectionneurs du côté du Nigeria. C'est aussi un vestiaire, une géopolitique du vestiaire qui est compliquée. Mettre un projet de jeu en place en cours d'éliminatoire, quand on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps de travail avec les sélections, je lui souhaite également bon courage. Mais en même temps, c'est une opportunité qui peut paraître un peu inespérée. Et ça peut être acquis tout double parce que si vous réussissez à bien travailler avec le Nigeria, ça vous change le fil d'une carrière. Parce que les clubs qui ont été jusqu'à présent annoncés, c'est Boulogne, Consola, le Mouloudia Club d'Oran en Algérie, qui n'est pas aujourd'hui une place forte du football algérien ni africain. Alors, il y a eu cette séquence avec le Mali qui a été intéressante. Mais où on
quart
a
de
pu,
finale ouais, de la CAN, rappelons-le.
Ouais, on a pu aussi noter, et j'espère que là-dessus, il a progressé, une émotivité un peu exacerbée, notamment. Mais c'était aussi son pays d'origine.
Au moment de l'élimination du Mali en quart de finale,
voilà, il y avait une implication,
au tir au but.
Tout à fait, il y avait une implication émotionnelle qui était importante. Le Nigeria, bah de toute façon, moi je dis souvent, c'est ce genre de pays dans ce genre de situation à l'échelle africaine, peut-être pas au niveau mondial en Coupe du Monde, mais c'est les joueurs qui décident. Si les Nigérians, ils ont décidé de gagner un match, ils le gagneront parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels. J'espère que le vestiaire va travailler en harmonie avec le nouveau staff. C'est un pari risqué, mais il a eu raison de le prendre et on lui souhaite vraiment bon courage.
Chérif Guémour, comment vous voyez la nomination d'Éric Schell et ce choix par rapport à l'équipe qu'il a? Le défi, là aussi, c'est de les qualifier à la Coupe du Monde. On a l'habitude de les voir, les Nigérians, en Coupe du Monde.
C'est une opportunité extraordinaire. C'est une super promotion. On parle du Nigeria quand même. Là, on parle de place forte du football africain, même s'ils sont en difficulté. Et ça va être vraiment, je suis d'accord avec Nabil, ça va pas, on n'a pas le temps de mettre en place des schémas tactiques. Il prendra l'équipe telle qu'elle est actuellement, qui n'est pas si mauvaise. Derrière, ce n'est pas si mal.
Ils étaient vice-champions d'Afrique.
Non, hein, on les a vus en finale, Annie a raison de le rappeler. Ouais, c'est-à-dire qu'on pense que c'est une traction avant, mais ils ont quand même réussi à trouver un équilibre avec le sélectionneur portugais José Peseiro. Et ça devenait presque une forteresse imprenable pendant la CAN.
C'est ça.
On a même découvert un gardien là où ils étaient en difficulté.
Voilà, exactement. Non, ils sont bons vraiment partout. Ce qui est étonnant, c'est leur début de parcours. 4 matchs nuls. Non, 3 matchs nuls et une défaite.
Donc c'est zéro victoire pour l'instant.
Donc c'est zéro victoire.
Dans ces éliminatoires.
C'est préoccupant. Là aussi, on a parlé de mission impossible. Là, c'est pas mission impossible, mais ça va être très dur. En tout cas, c'était une super opportunité. C'est le Nigeria, 225 millions d'habitants. Un pays passionné et passionnel qui est traversé par des conflits politiques, ethniques et religieux. C'est vraiment pas facile.
Et ça se ressent un peu sur le football ces derniers temps.
C'est vraiment une mission d'homme. Il va falloir être un meneur d'homme, une opération commando. Moi, je vois pas d'autres façons de voir les choses. C'est une mission commando. Et si il qualifie l'équipe du Nigeria pour la Coupe du Monde, peut espérer aller loin et rebondir dans une carrière, comme disait Nabil, je suis d'accord.
Franck, qu'attendre d'Éric Schell à la tête des Super Eagles?
Dans un mouvement de balancier qui fasse, qu'il apporte, lui, le Malien né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce que feu Stephen Keshi, nigérian, avait apporté au football malien. C'est un mouvement de balancier, là. Keshi a été sélectionneur du Mali, du Togo aussi, mais... Et là, c'est un Malien qui vient, en fait, j'allais dire au secours, mais c'est un peu ça quand même.
Stéphane Keshi, dernier vainqueur de la CAN
ouais,
avec
en 2013. Ouais. Le dernier, moi, à ma connaissance, le dernier étranger africain qui a prêté main forte au Nigeria, c'était l'adjoint historique du coach Keshi, mon ami béninois Valère Wandinou. Et ça commence à remonter. Il y a eu beaucoup de Sud-Américains, il y a eu des Européens, bien sûr. Mm-hmm. Là, c'est un Africain, on fait confiance à un Africain. Ça va dans le bon sens. C'est bien d'aller vers les forces vives. C'est un jeune entraîneur, je crois qu'il a 47 ans, Eric. Mm-hmm. Maintenant, le défi, moi, je pense qu'il... Effectivement, Nabil a tout bien résumé. Sur les enjeux, je pense que Chérif a aussi les a précisés. Faut lui laisisser vivre ces deux et préparer ces deux matchs importants, c'est Rwanda et Zimbabwe, je crois.
Rwanda, ça sera pas simple.
Ça sera pas simple. Même le Zimbabwe ouais. Que j'ai eu à commenter contre le Cameroun, c'est très compliqué. Après, il a tellement de talent devant, c'est à lui de trouver le bon attelage, le juste attelage. Et après, si tu es lancé sur les deux premiers matchs, tu fais un 6 sur 6, bon, allez.
On parlait du charisme, il y a aussi la langue. Hein. C'est un pays anglophone. C'est une culture particulière, hein, le parler, la façon dont ils s'entendent.
C'est une mosaïque. C'est une mosaïque de le Nigeria. Donc,
il y a des équilibres à respecter. Ouais. C'est pas que du football.
Ouais, faut bien maîtriser la langue. Je dirais même l'anglais nigérian. C'est très très particulier le Nigeria. Il faut vraiment s'y fondre. C'est des codes. Voilà, c'est ça le mot que je
cherche.
C'est des codes.
Enfin, on a parlé de la prise de fonction, l'environnement, mais il y a un truc quand même qui est important à dire par rapport au talent des Nigérians. Les deux derniers meilleurs joueurs africains de l'année, c'est pour situer quand même la qualité de l'effectif. Ok, on peut parler, il y a aussi Olaïna, par exemple, qui est un défenseur fantastique du côté de Nottingham Forest, mais les deux derniers meilleurs joueurs du continent africain,
Ademola
Lookman, Nigeria, Victor Osimhen, Nigeria. Donc ça veut dire qu'il va rentrer dans dans un vestiaire avec ces gars-là. Ouais. C'est ça que ça veut dire.
Mais c'est à lui de les convaincre et rapidement.
Et de les embarquer.
Tout simplement.
En tout cas, merci beaucoup à Eric Schell de nous avoir confié ses premières impressions et surtout son projet pour la sélection des Super Eagles. Et rendez-vous au mois de mars pour ces journées qui seront essentielles pour les Super Eagles. Vous voyez, Nabil, pas besoin de ring pour vous, ni pour John Textor pour asséner des coups. Alors, du droit ou du gauche, non. Hier, plutôt, lui, c'était des mots. Et des mots bien choisis.
Rocky Textor.
Ouais, ça pourrait lui aller. Ouais. L'Américain, en tout cas, c'est le choix de Laurent Salerno, bien sûr. Alors, l'Américain, propriétaire de l'Olympique Lyonnais depuis 2 ans et président du club rhodanien depuis 1 an et demi, successeur de Jean-Michel Aulas, rappelons-le. Il a hier soir, au micro de nos confrères de RMC, mis en cause la Ligue 1. Son image à l'abandon, ses diffuseurs sans idée, la mainmise du Qatar, surtout à travers le PSG et son président. Et là, il s'en est pris à Nasser El Khelaifi et aussi à Vincent Labrune. Écoutez les propos de John Textor. Alors, depuis, hein, évidemment, il s'est un peu excusé, mais de toute façon, les propos resteront.
Je n'étais pas au courant de la domination que le président du PSG exerçait sur l'Association européenne des clubs ni sur le comité exécutif de l'UEFA. J'ai été choqué en juillet dernier lorsqu'on a abordé la question des droits TV. Le président de la Ligue, qui devait mener les débats, n'a quasiment pas pris la parole. C'est Nasser qui a mené les discussions alors qu'il n'aurait pas dû être là, puisqu'il est le patron d'une chaîne qui diffuse la Ligue 1, directement impliqué dans les débats. À chaque fois qu'il avait une voix discordante, Nasser aboyait sur cette personne. Le président de la Ligue était assis, là, il était comme un toutou et ne disait rien. Je ne savais pas que la Ligue était autant dominée par cet homme, j'ignorais qu'il avait autant d'influence, y compris sur la DNCG.
Alors là, on est descendu du ring pour parler d'un
J'aime
toutou.
J'aime bien quand il dit à la fin, DNCG.
ouais, qui les menace bien, mais Shérif Guémour, il y va fort quand même. Alors, on va revenir sur le fond après, parce qu'il peut y avoir des choses, mais quand même, il y va fort. C'est un peu notre Trump du football français, finalement, John Textor, là, on le découvre.
C'est à l'américaine. Rappelez-vous, quand il est arrivé à Lyon, il a pratiqué le spoil system. C'est des pratiques...
C'est-à-dire
spoil system, ça veut dire on dégage tout le monde en très peu de temps et puis on fait place nette.
En 6 mois, il a viré Jean-Michel Aulas avec qui il avait un accord.
On revend les actifs solvables. C'est vraiment des méthodes américaines.
On vend l'équipe des filles.
Voilà, ouais. C'est ça.
C'est une politique de groupe en plus. Hein, le concernant, c'est une politique de groupe.
Oui, bien sûr.
C'est le boss
d'un conglomérat, on va y venir. Mais sur les propos, ça vous surprend?
Oui.
Ou alors
non.
Il rentre sur le ring, justement, là,
oui
quand
et
même.
Non. Oui et non, parce que, comment dire, après, c'est pareil, c'est un Américain, comment t'appelles, les Américains se sentent toujours trop étroits dans l'univers français, que ce soit dans le business, que ce soit dans les institutions en général. Donc voilà, lui, quand il parle de la DNCG, par exemple, lui, il résonne à l'échelle mondiale, il résonne à l'échelle de son groupe. La DNCG lui dit, attendez, monsieur Textor...
La direction nationale,
voilà, c'est ça.
Contrôle et gestion.
De le contrôle et gestion des clubs français.
On vous parle de l'OL,
c'est un peu le gendarme.
Contrôlé, quoi. C'est ce qu'il nous dit. Quoi.
Parle de votre club, c'est l'OL, c'est ce club qu'on contrôle. Après, toutes vos interférences, toutes votre...
Il a des problèmes avec la DNCG.
Voilà, mais ça, c'est sa
vision. Non, mais sur les propos envers Nasser El Khelaifi
et sur les propos
et Vincent Labrune.
Mais ça fait un bout de temps qu'ils se cherchent tous les quatre, tous les trois. Et alors là, on peut rentrer sur le fond. Donc, oui. Entre autres, il y a le conflit d'intérêts. En effet, que Nasser El Khelaifi est à la fois président de club et président d'une chaîne.
Ministre au Qatar.
Qui est ministre au Qatar. Ouais. Donc,
c'est pas dénué de sens.
Et propriétaire d'un des diffuseurs.
D'un des diffuseurs du championnat. Et surtout,
qui organise, par exemple, le trophée des champions à Doha, bien sûr.
Oui, bien sûr. Hein, donc,
c'est lui qui a le dernier mot.
Et l'un des problèmes principaux aussi, c'est la création de la chaîne. Parce que, lui, Textor, c'est quelqu'un de réaliste. Lui, il s'est dit, quand il a vu toutes les difficultés de vendre des droits télé, il a dit, allons à l'essentiel.
Et, Créons une chaîne de retransmission. C'était l'idée de la...
Et on a préféré prendre la voie autre, c'est-à-dire choisir DAZN, qui, de toute façon, ne remplira pas les objectifs. Maintenant, on le sait, ils ne sont même pas à 500 000 abonnements.
On va y venir sur son constat du football français. Mais Franck, quand
D'où la charge excessivement vulgaire et agressive.
Mm-hmm. Quand il dit « je n'étais pas au courant de la nomination du président du PSG sur tout le football et européen et français », il cherche quoi, justement, à rentrer sur le ring avec lui ?
Bah ça y ressemble quand même, hein. Il met les pieds dans le plat, la démonstration de Chérif est claire de ce point de vue-là sur la méthode à l'américaine. Et puis, c'est aussi la découverte pour lui, le soccer, le football, c'est pas la discipline première hein, en Amérique du Nord et aux États-Unis.
Non mais lui, par contre, vous le disiez, il a un groupe de clubs de foot.
Et il découvre depuis des mois un fonctionnement. Qui lui déplaît. Depuis l'automne, il est en conflit ouvert avec la DNCG qui lui dit en gros, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Votre argent, c'est pas ci, c'est pas ça. Et lui, il dit, non, c'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Si je veux renflouer mon club
via le groupe... Avoir des joueurs qui arrivent comme le dernier Argentin en prêt gratuit.
Prêt gratuit, effectivement.
J'attends de vendre mes parts à Crystal Palace. En fait, c'est ça.
C'est ça. Et il dit, moi...
Financier.
Il dit, je fais ce que je veux de mes deniers et avec mes clubs. Et en revanche, ici en France, on lui explique que ce n'est pas possible.
Il y a un autre cadre.
Ouais, et après, le cas, et ce qui est complémentaire, effectivement, c'est cette affaire avec le président du Paris Saint-Germain.
Mais il est de taille à s'en prendre à Nasser El Khelaifi. C'est quand même un homme d'affaires, très riche, mais contre un président très puissant.
Oui, mais en fait, aujourd'hui, en fait, ce qu'il va incarner en faisant ça, à mon sens, c'est pas une question. Le rapport de force, il lui est évidemment défavorable pour les raisons qui ont été énoncées, puisque Nasser, le PSG est hégémonique en France. Nasser l'est également au niveau des instances et avec une dimension européenne et mondiale presque. Mais il incarne, avec cette prise de position, celui qui représente en quelque sorte une forme de leader d'opposition. C'est-à-dire qu'on crée un match.
On n'arrive pas à voir pour l'instant, parce que quand on voit comment Vincent Labrune a été élu à la tête du football français, on se dit il n'y a pas d'opposition.
Il crée un match Paris Saint-Germain-Lyon. Et il cornerise un peu les autres. Et surtout l'OM, par exemple, qui est aujourd'hui un club suiveur, entre guillemets.
Nabil, écoutons de nouveau John Textor. Là, c'est peut-être un peu plus intéressant, mais il y va au coup de poing aussi. Mais comment il voit le championnat de France et surtout les critiques qu'il peut faire pour un spectacle qui, selon lui, n'est pas à la hauteur de ce qu'il imagine ou imaginerait.
Le produit que nous voulons mettre en avant doit être aussi séduisant que l'est la France. Tout le monde adore la France, n'est-ce pas ? Alors, on adore ce pays, pourquoi ne montre-t-on pas ce qu'est la France à la télévision et à la radio, en racontant des histoires ? Actuellement, le produit qu'on diffuse sur la Ligue est nul, ça ne vaut vraiment rien. Voilà pourquoi tout le monde s'en fout, on n'en tire aucun revenu. Alors, essayons de le proposer de telle sorte que les gens puissent voir l'histoire du produit et peut-être que cela aura plus de succès.
Alors voilà, il critique.
Il a pas tort.
Hein. Il critique ce championnat qui finalement n'a pas d'odeur, qui ne sait pas d'odeur, pas de couleur. C'est-à-dire, il ne sait pas créer des histoires. Il est mal retransmis. Il critique. Il avait critiqué beIN Sport les commentaires sont faits à côté d'ici là. C'est-à-dire dans des studios.
Non, mais il a parfaitement raison.
Les gens n'hument pas l'odeur du stade, l'ambiance et tout ça. Et puis ne racontent pas le championnat de France.
C'est pas soit étonné, c'est, il a pas tort hein, par rapport à ce qui se fait ailleurs.
Bah oui.
Ça manque cruellement de saveur. Donc après, c'est un truc qu'on a déjà touché du doigt il y a pas longtemps, je crois, Annie, en parlant de voilà, pourquoi on fait des trophées des champions à l'étranger. Mais c'est pour vendre une marque, vendre un championnat, vendre un produit. Mais le produit, il est pas bon lui-même. Mmh. Donc que voulez-vous, les gens s'en désintéressent et ils vont voir ailleurs. Ils vont voir l'Espagne, ils vont voir évidemment la Première Ligue, ils vont voir l'Allemagne. Même la Serie A, et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mmh. Et lui, je trouve qu'il est dans son bon droit, en tant que président d'un des gros clubs de ce championnat, oui, de mettre les pieds dans le plat. Alors, c'est sur la forme qu'on peut débattre.
Bah, il est un peu ambiance Far West, mais quand il s'installe dans le saloon, au comptoir, il peut dire des choses qui ne sont pas dénuées de sens. Quoi. Ouais.
Il sortait les flingues.
Il a flingué, mais ça, c'était à l'extérieur en duel.
Il a parfaitement raison sur
qui est son adversaire.
Sur les conditions de diffusion et de réalisation de DAZN, d'où je reviens à l'idée de départ, c'était vraiment d'aller à l'essentiel et de créer, que la LFP crée sa chaîne L1 avec ses retransmissions, ses consultants, ses magazines dominicaux, enfin vraiment, ouais, là, ouais, qu'on organise tout. Là-dessus, il a parfaitement raison. Deuxièmement, il dénonce évidemment le conflit d'intérêts, à savoir que, comment dire, oui, Bein, qui retransmet en partie les matchs, impose une exposition du produit Qatar sur les stades, ce qui est quand même demandé à l'OM, demandé à tous les clubs français de faire la promotion du Qatar, alors qu'en fait, on sait très bien que derrière, c'est le PSG, donc ça, oui, ça, ouais, brouille l'image.
Il a raison, c'est gênant, quasiment tous les aspects.
Quasiment sur tous les aspects, sauf quand il s'en prend frontalement et avec des mots déplacés.
Dernière chose où il n'a pas tort, c'est que, comment dire, on peut, comment ça s'appelle, critiquer la gestion, comment ça s'appelle, telle qu'elle est reprise par la DNCG sur l'OL, mais le PSG n'est pas en odeur de sainteté non plus avec DNCG européenne, mm-hmm, qui, eux, n'ont pas aussi des comptes sincères. Donc là-dessus, sur toute cette forme-là, il a parfaitement raison. Ouais.
Alors, il est sous la menace, rappelons-le, de cette fameuse DNCG de jouer l'année prochaine en Ligue 2.
Comme le PSG avec l'UEFA.
Relégation en Ligue 2 à titre conservatoire. Bon, d'ici là,
il peut se passer des choses. En tout cas, il l'a dit clairement, Cherki, non, je ne le vendrai surtout à mon adversaire, le Paris Saint-Germain.
Comme Nabil l'a dit, maintenant, les autres clubs de L1, maintenant, doivent se prononcer. Ils ne doivent pas rester.
Il va falloir voir.
Qu'ils soient sortir du bois. Quoi.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, le prochain match au LPSG, c'est programmé le 23 février prochain.
Je pense que Nasser va descendre dans le vestiaire.
Ça va être chaud.
Il va doubler les primes qui sont déjà
avoir l'œil du tir, les coups de poing. On va sortir, on va mettre un ring en bas.
Ouais, ça sera au stade de Lyon et on observera ça. Allez, une petite page saudade, comme on dirait en portugais, une page romantique.
Et le centre en fait sur Rostow, et voilà.
Rostow, brilliant save!
Et c'est Rostow qui meurt! Le but de la victoire, sans doute, par Rostow!
Merci. Il a donc 70 ans aujourd'hui, un septuagénaire qui ne vieillira jamais dans nos cœurs, bien sûr, nous, les amoureux du football romantique.
Ah, les belles boucles.
Dominique Rocheteau, surnommé l'Ange Vert en son temps, quand il était ailier de Saint-Étienne. C'était l'épopée des Verts des fin des années 70. Il a aussi été attaquant de l'équipe de France, celle de Platini, de Gires. On entendait là le but emblématique, Chérif Guémour, c'était un but de victoire en Coupe européenne.
C'est le but du 3-0 contre le Dynamo Kiev en quart de finale retour à Geoffroy Guichard qui qualifie Saint-Étienne contre le redoutable Dynamo Kiev. Et justement, c'est la figure charismatique parce qu'il était percu de crampes, il avait du sang à la bouche, il avait pris un coup. Il avait les chaussettes baissées, il se traînait, il avait le maillot plein de sang, de sueur, de boue. Et il marque ce troisième but et c'est très très important parce qu'il arrive tout petit peu avant Platini, c'est vraiment l'heure de gloire de Rocheteau. Après, il y a Platini qui va prendre le relais.
Qui viendra d'ailleurs jouer à Saint-Étienne.
C'est l'homme de la Renaissance, c'est l'Ange Vert, c'est l'homme de la Renaissance du foot français.
Franck Simon, vous avez joué avec Dominique Rocheteau.
Un bien grand mot, mais bon, du temps où je militais du côté de la rédaction de France Foot, on avait joué un match dans les années 90 avec lui. Mais bon, on était tellement mauvais, on ne lui a jamais donné un bon ballon. À la mi-temps, il a plié les goals.
Pour avoir joué
c'est pour ça qu'il
après,
est parti.
Je confirme que vous étiez mauvais. Pas vous, Franck, mais...
Ah, t'es gentil.
Bon, mais en tout cas, vous avez eu la chance de le fréquenter.
Ouais, non, mais un super... En revanche, humainement parlant, une crème, quoi.
Ouais. Une crème. Ouais. Et puis, très modeste, qui était...
Jamais averti.
Ouais.
Un ailier reconverti, d'ailleurs, attaquant, parce que ça a été un buteur.
Mm-hmm. Même si lui, il s'en foutait
un peu. Il a même été meilleur buteur du championnat. Il s'en foutait, les buts. Il était content de marquer, mais c'était pas ça.
Lui, c'était le collectif.
Le plaisir.
Alors, vous l'avez rencontré, mais nous, on l'avait reçu pour son livre de mémoire, hein, Football Sentimental. C'était un café des sports le 20 octobre dernier, en 2023. C'était il y a quelques temps. Il le dit, comme il l'écrit d'ailleurs dans ce livre, le football romantique, le football sentimental qu'il incarnait, c'est bien fini.
Il y a beaucoup d'argent dans le football. Bon, c'est un grand spectacle. Oui, pourquoi pas. Mais ce qui me gêne, c'est surtout, je dirais, plus le fossé qui se creuse entre le football professionnel et le football de la base. Parce que je parle toujours du football de la base. C'est important, le football de la base, c'est les jeunes, c'est le football amateur.
Ouais.
Là, actuellement, ces dernières années, je crois qu'il y a 5000 clubs qui ont disparu. On n'en parle pas beaucoup. 5000 petits clubs. Parce qu'il y a
en France, il y a des
regroupements, il y a des...
Oui, le football amateur a beaucoup de mal.
Donc, c'est plus sur la répartition de la richesse du football. C'est là où on pourrait faire différemment.
Il a raison, le football romantique, c'est totalement terminé ou on pourrait y revenir un jour, shérif ?
Non, il y a encore des belles histoires. Je prends un type comme... Prenons un Sotoka à Lens, c'est
Brest.
Vraiment...
Brest ?
Brest, voilà, oui, c'est ça. Brest, Sotoka, il y a encore des belles aventures humaines, collectives. Il y a encore des valeurs avant que les textors mettent tous les textors d'Amérique mettent la main entièrement sur la Ligue 1. Non, mais il incarne ça, ce romantisme, ce fair play. Il n'a jamais été averti dans sa carrière. Il ne répondait pas au coup, mais c'était aussi une façon un peu subtile justement d'énerver l'adversaire. C'est-à-dire, tu me fauches une fois, je me relève. Tu me fauches une deuxième fois, je me relève et je continue, je te driblerai. Donc voilà quoi. Et puis c'est l'équipe de France qui malheureusement n'a pas été championne du monde. Ouais. Notre grande équipe de France de 82-86.
À la grande époque, effectivement, mais qui déjà préparait ce qui serait en 98 et qui nous a beaucoup fait rêver. Franck, quels étaient les joueurs contemporains de l'époque?
On va en donner quelques exemples parce qu'il nous reste très peu de temps, mais au PSG, Mousdaleb déjà.
Et oui,
énorme.
Quand il a joué là.
Sar Boubacar Locotte, le Sénégalais. Ouais. Nambateng Toko, le Tchadien. C'était ses copains de jeu. Abdelkrim Crimo, le Marocain, qui a fini en même temps que lui en 89, qui a commencé à Toulouse et qui a quasiment fini à Saint-Té aussi, hein, Méry. Il a connu les débuts d'Abedi Pelé, il a connu les débuts de Georges Ouéa, et puis surtout le grand contemporain, ça a été les Camerounais Théophile Abega et Roger Mila, le grand frère Roger Mila. Voilà, parmi ceux qui ont été avec lui dans cette la fin des années 70, mi-70.
Tigana, né à Bamako aussi.
Oui, non, mais moi je parlais vraiment des attaquants, ceux qui étaient un petit peu ses concurrents. Il a eu la chance de jouer avec tous ces
Il nous avait dit d'ailleurs qu'il avait beaucoup admiré Salif Keïta et c'était ça qui lui avait donné envie de venir jouer à Saint-Étienne à l'époque.
Salif était déjà parti. Hein,
oui. Mais lui était venu dans ce club parce que l'aura des Verts à l'époque, c'était grâce à Salif Keïta, le Malien.
Une super référence. Pensez à Salif, pour Salif.
C'est la fin de ce Radio Foot International.
Merci beaucoup,
messieurs. On se retrouve demain dans Radio Foot International pour continuer à parler football et on parlera justement de, comment vous avez dit, le glissement du Chan.
Ça, c'est pas de jus qui aime bien ce mot, le glissement.
Ouais, c'était des dirigeants de la CAF, fut un temps, qui se jouera donc en août prochain et non plus la semaine prochaine.